Quel bonheur nous avons de connaître le Seigneur, celui qui a changé nos vies, celui qui est venu pour nous secourir, pour nous délivrer de notre détresse, pour ouvrir devant nous un chemin nouveau et une éternité glorieuse avec lui. Gloire à Dieu. Je voudrais avec vous maintenant ouvrir la parole du Seigneur dans la première épître de Jean. Et à partir du chapitre 3 et au verset 1er, je vous invite à faire cette lecture où il est question du Seigneur qui a prévu pour nous quelque chose de grand, de merveilleux. Première épître de Jean au chapitre 3 et au premier verset. Voyez quel amour le Père nous a témoigné pour que nous soyons appelés enfants de Dieu. Et nous le sommes. Si le monde ne nous connaît pas, c'est qu'il ne l'a pas connu. Bien-aimés, nous sommes maintenant enfants de Dieu et ce que nous serons n'a pas encore été manifesté, mais nous savons que lorsqu'il paraîtra, nous serons semblables à lui, parce que nous le verrons tel qu'il est. Quiconque a cette espérance en lui se purifie comme lui-même est pur. Amen. Voici donc ces quelques versets qui nous parlent de cette nouvelle vie que le Seigneur a établie en nous, cette nouvelle vie qui n'est pas limitée au temps que nous passons ici-bas sur la terre, mais qui se continue jusque dans l'éternité. Et vous savez comme moi que l'éternité, c'est très long, ça n'a pas de fin, donc c'est pour toujours. Et le choix que nous avons fait pour donner notre vie au Seigneur et marcher avec lui jour après jour, ce choix nous conduit vers cette éternité bénie, glorieuse, que nous allons partager avec celui qui nous a sauvés parce qu'il nous a tant aimés. Je retiens avec vous ce que nous avons lu au verset 2, bien-aimés, nous sommes maintenant enfants de Dieu et ce que nous serons n'a pas encore été manifesté, mais nous savons que lorsqu'il paraîtra, nous serons semblables à lui parce que nous le verrons tel qu'il est. Dans ce texte, nous relevons le fait qu'il est déclaré que nous serons semblables à lui, nous le verrons tel qu'il est. Avez-vous imaginé que vous puissiez ressembler à Jésus et être comme lui, comme lui? Si on vous proposait d'être aux côtés de notre président de la République, qu'est-ce que ça vous ferait? Oh là là, attendez. J'ai pas son niveau intellectuel, on a bien des choses qu'il a, lui, et que nous ne l'avons pas. Enfin, je ne me connais pas beaucoup, n'est-ce pas? Mais quant à prétendre être comme le Seigneur, semblable à lui, oh là là, mais peut-être il aurait fallu se préparer bien en avant. Eh bien, la Bible dit que nous serons semblables à lui. Et c'est Dieu lui-même qui nous le dit, qui le déclare. Et s'il le dit, il sait très bien de quoi il parle, n'est-ce pas? Et c'est la vérité. Nous serons semblables à lui. Alors, dans la perspective de cette grande et magnifique réalité qui nous attend là-haut dans la gloire du ciel, alors cela nous motive, cela nous donne envie d'aller plus loin avec le Seigneur. Cela nous donne toute la force dont nous avons besoin pour nous préparer et pour, bien sûr, tenir ferme jusqu'au bout, jusqu'à ce qu'il nous prenne avec lui. Il revient bientôt et bientôt nous allons le voir tel qu'il est et nous serons semblables à lui, comme lui, gloire à Dieu. Mais pour être un jour là-haut, avec lui, comme lui, semblables à lui, il faut que nous soyons déjà semblables à lui ici-bas, sur la terre. Que nous possédions sa vie, sa même vie. Est-il possible que nous puissions ressembler à Jésus, notre Sauveur, ici-bas, pendant que nous sommes sur la terre, dans ce monde, dans cette société où il y a tellement de problèmes, tellement de choses difficiles qu'il nous faut gérer chaque jour, qu'il nous faut surmonter, et qu'il nous faut donc vivre, parce que nous sommes exposés à tout ce qui nous entoure, et parfois ce n'est pas très facile. Est-il possible d'être semblable à Jésus? Alors peut-être quelqu'un dira, eh bien je sais... Et nous sommes tous en route. Et qui pourrait dire, oh moi, j'ai réussi, ça y est, je suis le meilleur. Peut-être que on pourrait trouver des choses à redire dans sa conduite, dans son comportement, dans sa manière de vivre, n'est-ce pas? Voilà. Et pourtant, être semblable à Jésus commence par cette expérience magnifique et merveilleuse qui nous amène à lui ressembler dans ce qu'il est, dans son amour pour Dieu et dans le fait de vivre délivré du péché, exempt du péché et affranchi donc de l'autorité du péché. Est-ce que nous pouvons vivre sans péché? Ou bien faut-il que nous laissions dans notre vie quelques coins qui n'a pas été encore nettoyé? Pouvons-nous vivre exempt de péché? Qu'en pensez-vous? Eh bien, la Bible nous dit que sur la croix, Jésus a payé pour nous, il a pris nos péchés, et que lorsque nous nous tournons vers lui pour lui demander pardon pour nos péchés, quand nous confessons nos péchés, l'épître de Jean, au chapitre 1er et au verset 9, sauf erreur, si nous confessons, 1 Jean chapitre 1er verset 9, si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. Alors, si nous comprenons bien ce verset, cela signifie que dès l'instant où nous reconnaissons ce qui n'est pas bien dans notre vie, et peut-être que la liste est quelquefois très longue, mais que nous le confessons au Seigneur pour le dire, Seigneur, pardonne-moi, libère-moi, et que ton sang précieux me lave, alors ce texte s'accomplit, cette promesse se réalise, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. Ainsi, lorsque nous reconnaissons nos péchés et que nous les confessons au Seigneur pour lui demander pardon, alors il nettoie notre vie par son sang précieux. Et la Bible déclare que le sang de Jésus nous purifie de tout péché, de tout péché. Gloire à Dieu. Alors si je confesse mes péchés au Seigneur, il est écrit qu'il me pardonne et me purifie. Et si c'est vrai, alors est-ce que je peux rester avec quelque chose qui n'est pas réglé dans ma vie? Si quelque chose n'est pas réglé, c'est que je ne l'ai pas confessé. C'est que je ne l'ai pas demandé pardon au Seigneur pour cela. C'est que quelque part, eh bien, j'ai conservé un petit coin secret que je ne veux pas ouvrir au Seigneur et dans lequel je ne veux pas que le Seigneur pénètre. Mais dès l'instant où je dis au Seigneur, viens et remplis ma vie, viens et purifie-moi, viens et mets en moi ta vie, ta pureté, eh bien, nous devenons comme le Seigneur. Gloire à Dieu. Nous sommes comme lui. Nous sommes délivrés de toute l'impureté qui nous séparait de Dieu. Et ainsi, eh bien, nous sommes semblables au Seigneur. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Et c'est là le privilège que Dieu nous donne. C'est là la grâce qu'il nous accorde. Non pas parce que nous la méritons, non pas parce que nous sommes meilleurs que quelqu'un d'autre. Non, mais parce qu'il nous a tant aimés. Parce qu'il voulait que nous soyons avec lui dans la gloire. Parce qu'il voulait que nous soyons délivrés de tout ce qui nous séparait de lui. Il voulait nous arracher à la perdition éternelle. Et pour cela, il a donné sa vie sur la croix. Il s'est offert un sacrifice. Il a payé le prix qui nous libère, qui nous rend libres et qui nous permet maintenant de regarder le Seigneur sans problème, de dire à notre Dieu, tu es mon Père. Moi, je suis ton fils, je suis ta fille, gloire à Dieu. Nous n'y sommes pour rien, si ce n'est que de reconnaître nos péchés et de lui demander pardon. Et c'est lui qui fait cette œuvre-là, c'est le cadeau qu'il nous donne. L'apôtre Paul, écrivant aux Éphésiens, dit « C'est par grâce que vous êtes sauvés, ce n'est pas par vos œuvres, ce n'est pas par nos œuvres, par nos mérites, par notre valeur que nous sommes sauvés, mais c'est le cadeau que Dieu nous fait. » Et en principe, un cadeau, on ne le mérite pas. Un cadeau, c'est gratis. Ainsi, Dieu nous a fait ce grand cadeau, gloire à Dieu. Et ce cadeau est offert à tous et à toutes. Alors, si quelqu'un ce matin parmi nous n'a pas encore reçu ce cadeau, bien vite, vite, levez le doigt et dites, Seigneur, je suis là, je veux ce cadeau. Seigneur, viens me pardonner, viens me laver, viens me purifier. Seigneur, je veux être comme toi, pur et sans tâche. Et ainsi commence une vie nouvelle avec le Seigneur, où il remplit notre vie de sa présence. La Bible nous dit dans Jean chapitre 1er verset 12 que à tous ceux qui l'ont reçu et à ceux qui croient en son nom, il a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Je lui demande pardon pour mes péchés, je lui dis Seigneur viens dans mon cœur, alors il me purifie. Il me lave, il vient dans mon cœur et je deviens enfant de Dieu. Et nous avons lu tout à l'heure, nous sommes enfants de Dieu. Le monde ne le reconnaît pas, le monde a des doutes, mais la Bible dit que nous sommes enfants de Dieu. Alléluia, je suis ton fils, je suis ta fille. Et maintenant, à l'exemple de Jésus, nous appartenons au Seigneur. Alléluia, quel bonheur, quel bonheur. Et en étant enfants de Dieu, en étant purifiés de nos péchés, en ayant en nous la présence même du Seigneur par son Esprit Saint, alors nous devenons ce que Jésus a dit lui-même dans l'évangile de Matthieu au chapitre 5 et au verset 14, vous êtes la lumière du monde. Vous êtes la lumière du monde. Oh là là, est-ce que vous brillez? Est-ce que vous éclairez beaucoup dans votre coin? Pourquoi pas? Pourquoi pas? Quelquefois, on ne se rend toujours pas compte de ce que notre vie peut produire dans la vie de ceux qui nous entourent. Mais si le Seigneur dit que nous sommes la lumière du monde, c'est la vérité. Et gloire à Dieu. Et peut-être que nous ne pourrons pas toujours connaître le résultat de ce que notre vie a produit sur notre entourage. Pendant que nous sommes ici-bas, peut-être que nous ne le serons pas toujours, mais là-haut dans le ciel, nous serons et nous rencontrerons des personnes qui viendront certainement nous dire ce que nous avons pu leur communiquer sans que nous le sachions. Mais la Bible dit que nous sommes la lumière du monde. Jésus le dit. Et vous savez ce qu'il a dit de lui-même dans l'évangile de Jean au chapitre 8 et au verset 12 ? Je suis la lumière du monde. Il dit lui, je suis la lumière du monde, et il dit de nous, vous êtes la lumière du monde. Les mêmes paroles, les mêmes mots. Gloire à Dieu. Ainsi, nous sommes semblables à Jésus, sans péché, parce qu'il nous a purifiés, c'est le cadeau qu'il nous donne, qu'il nous accorde, et nous devenons enfants de Dieu, et par là même, nous devenons donc la lumière du monde. Gloire à Dieu. Mais vous savez que la lumière, si elle est avantageuse dans bien des domaines, elle n'est pas toujours appréciée par tout le monde. Quand il fait noir, que la nuit est sombre, et que tout d'un coup, plomb, on allume la lumière, c'est difficile de la supporter, n'est-ce pas? Quand on roule la nuit et que quelqu'un en face de vous arrive avec plein phare, oh là là, on a de la difficulté aussi à supporter la chose. Ouais. Eh bien, la Bible dit que Jésus a été haï, méprisé, rejeté en tant que lumière du monde, parce que le témoignage qu'il rendait des hommes, des femmes qui l'entouraient, ce témoignage les mettait mal à l'aise et révélait donc leurs mauvaises actions et le mal qui était dans leur vie. Et ceci donc irritait et mettait de la haine dans le cœur de ceux qui l'entouraient, qui entouraient Jésus. Et de la même manière, Jésus dit que comme on l'a haï, on va aussi nous haïr. Non pas parce que nous sommes haïssables et méprisables, mais parce que ce qui est en nous gêne ceux qui sont autour de nous, ceux et celles qui se plaisent dans le mal et dont la vie n'est pas purifiée, n'est pas nettoyée par le sang précieux de Jésus. Ainsi, il faut que nous sachions qu'en étant enfants de Dieu, en étant la lumière du monde, en étant engagé dans les voies du Seigneur pour lui plaire et pour l'honorer, en vivant comme lui, alors nous sommes exposés à la haine de ceux et de celles qui n'aiment pas la vérité, qui n'aiment pas Dieu, qui n'aiment pas la sainteté et qui se plaisent dans le mal. Est-ce que vous connaissez des gens qui se plaisent dans le mal? Dans le mensonge, dans l'orgueil, dans la vanité, dans la violence, dans le mépris des autres. Bien des gens sont comme cela, hélas, hélas. Certains, eh bien, l'ont pas choisi et c'est ainsi. D'autres s'y plaisent et persévèrent dans telle voie. Et comme Jésus a été exposé à la haine des chefs religieux qui, eux, se contentaient d'une façade religieuse, d'un extérieur religieux, mais qui n'aimaient pas vraiment Dieu et dont les paroles et les œuvres de Jésus les condamnaient. Ces chefs religieux donc ont méprisé Jésus et ont voulu le faire mourir. Est-ce qu'il était normal qu'on veuille la mort de Jésus? Est-ce que c'était acceptable qu'on veuille que Jésus soit mis à mort à cause de ses actions? Certainement pas. Tout ce qu'il faisait, tout ce qu'il était tellement admirable. Et pourquoi cette haine des chefs religieux et d'autres personnes contre Jésus au point de le faire mourir? Parce que ce que Jésus, la vie et la lumière qui émanaient de la personne de Jésus, les mettait mal à l'aise. Et il en est de même pour nous aujourd'hui. Alors, nous ne cherchons pas à mettre mal à l'aise les hommes et les femmes qui nous entourent. Non, au contraire. Nous voulons que par la lumière qui se dégage de notre vie, à cause de la présence de Jésus, à cause de notre amour pour Dieu, à cause de notre manière de vivre qui veut plaire à Dieu, alors nous voulons les amener au Seigneur, leur faire connaître que le bonheur se trouve dans la personne de Jésus, dans le fait de lui appartenir. Et la Bible dit que, en faisant ceci, nous devenons, pour certains, une odeur de vie qui donne la vie, et pour d'autres, une odeur de mort qui donne la mort. C'est pas nous qui choisissons, c'est ainsi. Comme la lumière peut arranger quelqu'un qui se trouve dans le noir et qui ne sait pas où il en est, et dès que la lumière arrive, alors ça y est, il voit le chemin et il peut y marcher, et c'est pour lui son salut. Alors, pour des personnes, ce qui se dégage de notre vie les amène à découvrir Jésus, et nous sommes une odeur de vie. Comme la lumière dérange certaines personnes, et est insupportable dans certaines circonstances, eh bien, notre conduite peut devenir insupportable pour certaines personnes autour de nous. Et nous devenons pour ces personnes une odeur de mort qui donne la mort parce que ce que nous sommes et ce qui est en nous et qui vient du Seigneur les condamne et les entraîne dans le jugement. Et cela, non pas parce que nous avons choisi que les choses soient ainsi, mais parce que c'est ce que le Seigneur a fait dans notre vie qui produit ceci. Ainsi, dans ce domaine-là, eh bien, comme dans la pureté, comme dans le témoignage que nous donnons, nous sommes semblables à Jésus. Alors, merci Seigneur pour ceux et celles qui viennent au Seigneur par notre témoignage, par ce que nous pouvons communiquer au travers de notre vie, et nous sommes appelés à travailler dans ce sens, à agir, et il y a tant d'hommes et tant de femmes qui attendent cela de notre part. Il y en a quelques-unes à grouiller, il y en a peut-être deux, trois, peut-être plus, qui attendent que nous allions pour leur dire que en Jésus se trouve le bonheur, la vie, la vérité et la joie dont nous avons besoin et qui nous conduit vers la plénitude. Et il y a tant de personnes qui attendent cela. Et pour d'autres, eh bien, nous allons rencontrer de l'hostilité. Un jour, je distribuais des traités dans la rue. Il y avait un monsieur qui était là, assis à l'ombre, avec d'autres personnes. Et quand, après avoir pris le traité que je distribuais, Elle s'est rendu compte que ça parlait de Dieu. Il s'est mis en colère, il a jeté le traité, ça le dérangeait vraiment. Oui, et ça peut déranger bien plein de personnes quand nous faisons quelque chose pour leur faire connaître le Seigneur Jésus. Mais qu'importe, c'est là le travail et l'œuvre à laquelle le Seigneur nous appelle et nous voulons être semblables à Jésus pour le servir et l'honorer. Être semblable à Jésus, même si nous sommes rejetés, même si nous sommes haïs, mais nous portons ce parfum de Jésus autour de nous et nous voulons être fidèles dans le service que Dieu nous a confié dans ce domaine. Maintenant, nous pouvons et nous devons être semblables à Jésus dans l'utilisation de notre vie. Comment devons-nous utiliser notre vie? Alors, quand on est enfant, on rêve à devenir telle personne dans la société. Telle jeune fille va rêver d'être hôtesse de l'air, elle veut prendre de la hauteur, n'est-ce pas? D'autres veulent être capitaine ou je ne sais pas quoi. Et chacun donc a des projets, et c'est important d'avoir des projets, et c'est bien normal, c'est bien naturel. Mais, au-delà de tout ce que nous pouvons projeter, il y a ce que Dieu, lui, veut faire avec nous. Ce à quoi Dieu veut que nous consacrions notre vie. Et là, ce n'est pas gagné d'avance, parce que ne connaissant pas Dieu depuis le début, donc, nous allons devoir découvrir la personne du Seigneur, nous allons découvrir sa manière de faire et d'être, nous allons découvrir sa volonté, et à un moment donné, il va falloir décider du choix, décider de l'orientation de notre vie, soit faire ce que nous avons prévu avec dans nos projets, dans notre envie de faire quelque chose, ou alors soit découvrant le plan de Dieu pour notre vie, accepter ce plan, nous soumettre à la volonté de Dieu et entrer dans ce que le Seigneur a prévu pour nous. Alors à ce stade-là, il faut nous demander qu'est-ce que c'est qui est le meilleur. Faire ce qui nous semble bon. Ah là là, si je pouvais être un tel, une telle, ah ça serait formidable. Ou bien faire et être ce que le Seigneur veut que nous soyons. Ah oui, oui, mais ce serait bien, mais voilà, quel chemin. Et quelquefois, eh bien, ça va à l'encontre. Le fait de permettre à Dieu de conduire notre vie, d'utiliser notre vie, va à l'encontre de ce que nous avons pu projeter, décider, envisager et même envier. Alors nous trouvons dans la personne de Jésus le modèle par excellence, le modèle qui nous assure non seulement le bonheur dont nous avons besoin ici-bas sur la terre, mais aussi qui nous assure la gloire à venir lorsque nous quitterons cette terre. En fait, quand on parle de quitter la terre, bien, on espère vivre le plus longtemps ici-bas sur la terre. Oh, partir, attendez, moi j'ai encore du temps, je suis jeune, ou alors j'ai du travail à faire, on verra plus tard. Mais le plus tard, c'est peut-être très très vite, c'est peut-être tout à l'heure, c'est peut-être cette nuit, demain, c'est peut-être dans 15 jours. Donc, oui, j'ai des projets pour moi. Dans 10 ans, eh bien, je sais que je pourrais être ceci, cela. Alors, qu'est-ce que je fais? Est-ce que je me consacre à ceci? Et puis, on verra plus tard ce que Dieu veut. Ou bien, aujourd'hui, je cherche à découvrir ce que Dieu veut faire avec moi et je m'y donne entièrement pour que Dieu accomplisse sa volonté dans ma vie. Alors, si je dois vivre 50 ans, alors, je veux dire, j'ai du temps. Mais si je dois vivre 15 jours, oh là là, alors ça change tout, ça. Savez-vous quand est-ce que vous allez partir? Je ne veux pas raccourcir votre vie, n'est-ce pas? Mais il y a toujours cette éventualité. Et il faut que nous sachions que notre bonheur, notre épanouissement, la plénitude que le Seigneur a prévue pour nous, se trouve non pas dans l'accomplissement de nos projets personnels, même s'ils paraissent être excellents à notre estimation, notre bonheur se trouve dans ce que Dieu a prévu pour nous, même si ça nous paraît défavorable au départ. Alors, quel est le témoignage que Jésus nous donne à ce niveau-là? Il a quitté le ciel pour s'installer tranquillement sur la Côte d'Azur, parce que là-bas c'était formidable, passer un temps de vacances magnifique. Non, non, je ne sais pas si vous connaissez la Côte d'Azur. Il est venu, nous dit la Bible, en déclarant « Je viens, ô Dieu, pour faire ta volonté. » Je viens, non pas pour faire ce qui me plaît, non pas pour faire ce qui m'est agréable, ce qui m'avantage, mais je viens pour accomplir ce que toi, mon Dieu, tu as prévu pour ma vie. Et tout au long de son passage ici-bas sur la terre, jusqu'à ce qu'il donne sa vie sur la croix, son but était d'accomplir la volonté du Père. Pouvons-nous ressembler à Jésus dans ce domaine? Est-ce que c'est possible? Ça dépend de notre choix. Dès le sein où nous comprenons ce que le Seigneur a prévu pour nous, alors c'est à nous à décider. C'est à nous à décider. Alors, comment Jésus a vécu? Eh bien, comme je disais tout à l'heure, il s'est employé à accomplir les œuvres de Dieu. Et il disait ceci dans l'Évangile de Jean au chapitre 9 et au verset 4. Jean chapitre 9, verset 4. Il faut que je fasse, tandis qu'il est jour, les œuvres de celui qui m'a envoyé. La nuit vient où personne ne peut travailler. Pendant que je suis dans le monde, je suis la lumière du monde. Il y avait un impératif pour lui. Il faut que je fasse, tandis qu'il est jour, les œuvres de celui qui m'a envoyé. Et Jésus s'est appliqué à accomplir ses œuvres. Et il allait de lieu en lieu, faisant du bien, accomplissant tout ce que le Père lui avait demandé, annonçant la bonne nouvelle, délivrant les possédés, intervenant pour guérir les malades et relevant ce qui était dans la détresse, apportant cette magnifique nouvelle qui donnait de l'espoir, qui relevait les bas tombés. Oh, combien d'hommes, de femmes étaient encouragés. Et c'est pourquoi la Bible nous dit que des multitudes suivaient Jésus parce qu'ils trouvaient dans les paroles de Jésus c'est ce qui nourrissait leur cœur et qui leur donnait un avenir, une espérance. Il a accompli cela. Est-ce que je peux faire quelque chose dans ce sens? Qu'est-ce que Dieu veut faire avec moi? C'est la grande question. Alors, c'est bien, quand on est jeune, de se poser ces questions, et c'est bien normal, et ça peut ainsi orienter d'une manière très, très importante notre vie, catégorique même, notre vie. Mais on peut se la poser à tout âge, parce que à tout moment, il faut nous examiner pour savoir si nous sommes dans la foi, pour savoir si notre vie correspond à ce que Dieu a préparé pour nous, pour savoir si nous sommes vraiment dans ce que Dieu veut que nous soyons, que nous fassions. Aujourd'hui, nous vivons certaines choses. Est-ce que Dieu est d'accord avec ce que nous vivons? Pour Jésus, il était au centre de la volonté divine. Il faisait ce que le Père voulait. Et nous, qu'en est-il? Alors, cela nous amène à réfléchir. Et Dieu ne veut pas nous mettre en difficulté en nous disant, tu vois, tu t'es trompé, tu ne comprends rien, tu n'es bon à rien. Non, mais il veut nous montrer quel est le bon chemin, quelle est la bonne utilisation, ce qui va nous rendre heureux, ce qui va contribuer à la gloire de Dieu au travers de notre vie, ce qui va nous permettre d'être remplis de la joie et de partager la joie du Seigneur. Il y a bien des choses qui nous permettent d'avoir de la joie ici dans le monde. Mais cette joie, elle ne dure pas longtemps. Elle est vite effacée par un autre événement qui arrive et qui met tout par terre. Et ainsi, la joie que nous avions, eh bien, ça y est, elle n'existe plus parce qu'il y a un problème qui s'annonce, parce qu'il y a quelque chose qui arrive de contraire et qui fait que voilà, la joie est partie. Mais la joie qui vient de Dieu, elle demeure. elle s'installe. Elle s'installe tellement que rien ne peut l'enlever parce qu'elle vient d'en haut, elle vient du ciel. Gloire à Dieu. Et Dieu veut que nous ayons cette joie. La joie de vivre avec lui, de faire ce qu'il veut, d'accomplir sa volonté. Et cela pour être semblable au Seigneur Jésus. Accomplir les œuvres de Dieu. Je voudrais lire avec vous ce texte que je trouve tellement important dans la deuxième épître aux Corinthiens, au chapitre 5. 2 Corinthiens, chapitre 5, au verset 14 et 15. « Car l'amour de Christ nous presse, parce que nous estimons que si un seul est mort pour tous, tous donc sont morts, et qu'il est mort pour tous afin que ceux qui vivent ne vivent plus pour eux-mêmes, mais pour celui qui est mort et ressuscité pour eux. » Je trouve que cette parole de l'apôtre Paul adressée aux chrétiens de Corinthe est tellement forte. L'amour de Christ nous presse. Cet amour si grand, merveilleux, qui est venu changer notre vie, qui est venu nous délivrer de notre misère et ouvrir devant nous un avenir tellement glorieux, merveilleux. Cet amour nous presse, nous étreint, nous subjugue, nous domine et nous fait dire « Il est mort pour moi, alors maintenant moi, je vais vivre pour lui. Il a donné sa vie pour moi, alors la vie que j'ai, les moyens que j'ai, les possibilités que j'ai, elles lui appartiennent. Je vais les employer pour lui. Il est mort pour tous, afin que ceux qui vivent ne vivent plus pour eux-mêmes, mais pour celui qui est mort et ressuscité pour eux. » Jésus vivait non pas pour lui-même, mais il vivait pour la gloire de son Père. Être semblable à Jésus, eh bien, c'est avoir aussi ce même état d'esprit, cette même envie d'honorer Dieu au travers de notre vie et de reconnaître, de réaliser que si nous avons quelques moyens au niveau physique, au niveau intellectuel, au niveau matériel, dans tous les domaines de notre vie, si nous avons quelques moyens, ces moyens sont des cadeaux que Dieu nous a faits et que nous pouvons ainsi les engager, les faire valoir pour l'honneur de celui qui a donné sa vie pour nous. Parce que lui a tout employé, il a tout misé pour notre salut. Alors nous pouvons faire de la même manière en retour pour lui. Et ça change tout, n'est-ce pas? Ça change tout. Dès l'instant où l'amour de Dieu nous saisit et nous pousse à vivre pour lui en lui disant « Seigneur, tout ce que je suis, c'est pour toi maintenant et je vive pour toi », alors ça nous amène à faire des choix qu'on ne pourrait pas faire autrement. Si nous faisons cela par contrainte, en disant « il faut que je fasse encore ceci », alors ça va devenir un carcan et bientôt la vie chrétienne sera donc quelque chose d'insupportable que nous ne pourrons plus suivre. Mais quand l'amour de Dieu nous presse et nous anime, alors on est prêt à aller jusqu'au bout, parce que, justement, c'est l'amour de Dieu qui anime notre cœur et nous amène à lui donner tout pour que nous puissions l'honorer. Vous connaissez ce cantique peut-être ? Je te donne tout. Quand on arrive à chanter ce cantique, on ne peut pas le chanter du bout des lèvres. Prends mon corps, prends mon âme, je te donne tout. Cela nous amène à réfléchir. Est-ce que ma vie t'appartient, Seigneur? Est-ce qu'elle est pour toi? Est-ce que tu peux disposer de tout ce que je suis? Qu'est-ce que je pourrais faire de plus pour te montrer que je t'aime et que tu es vraiment le maître de ma vie? Voilà. Semblable à Jésus. Alors que Dieu nous aide. Alors je ne veux pas mettre un fardeau sur vous, n'est-ce pas? Mais simplement avec vous, je voudrais que nous comprenions tous que notre bonheur n'est pas de faire ce que nous avons imaginé dans nos projets, même s'ils paraissent être les meilleurs à nos yeux et aux yeux des autres, mais notre bonheur est de nous engager de tout notre cœur à faire ce que Dieu veut. Et ce qu'il veut, le Seigneur, c'est pas nous déposséder, c'est pas nous restreindre, c'est pas nous diminuer, c'est pas nous tenir là comme un esclave, mais c'est nous faire entrer dans sa joie, entrer dans sa gloire et devenir semblable à lui lorsqu'il viendra nous chercher. Et quand nous pensons au fait que bientôt Jésus revient, et que nous serons avec lui et comme lui, dans la gloire régnant pour l'éternité avec lui, les choix, ils sont faciles. Aujourd'hui, ceux qui visent à des situations où ils vont trouver leur avantage, leur bonheur matériel, ce qui leur plaît parce que ça va dans le sens de ce qu'ils espèrent d'une manière matérielle, humaine, ces personnes-là qui suivent ce chemin-là, eh bien, pensent à leur vie ici-bas sur la terre. C'est légitime. Mais quand on découvre le Seigneur, on se rend compte qu'il y a d'autres enjeux plus importants, plus merveilleux, auxquels nous pouvons unir notre cœur pour vraiment vivre avec le Seigneur, lui qui nous a tant aimés. Et il est venu pour nous sauver, nous délivrer de ce qui nous trompait, de ce qui pouvait être une séduction contre nous, pour nous rendre, et ainsi nous rendre esclaves. Il est venu pour nous en délivrer et nous permettre de découvrir ce qu'est vraiment la vie avec lui. Parce que bientôt, nous allons quitter cette terre et nous allons être avec lui dans la gloire du ciel. Alors, honneur et gloire à ceux et à celles qui auront fait le bon choix. Et ce matin, si vous aviez un choix à faire, alors que Dieu vous aide et que vous puissiez faire aussi le bon choix. Et moi aussi, je dois choisir, bien sûr. Je suis comme vous. Vous vous souvenez, pour ceux qui sont engagés avec le Seigneur, le jour où vous êtes baptisé, vous avez pris le baptême. Vous savez ce que signifie le baptême? C'est plus que de se mouiller, n'est-ce pas? C'est de mourir avec le Seigneur. Bam, on est englouti, ça y est, c'est terminé. Et maintenant, c'est une nouvelle vie où on vit pour le Seigneur. C'est la leçon du baptême. Voilà. Un jour, je me suis engagé et je dis, Seigneur, je dis non à tout ce qu'a été ma vie jusqu'alors. Et j'avais des raisons de dire non, parce que j'étais perdu, parce que j'étais esclave, parce qu'il n'y avait pas d'espoir pour moi. Alors j'ai eu raison de dire non. Et je dis oui au Seigneur pour vivre avec lui. Et ça, c'est la vraie vie, la vie qui conduit vers la gloire du ciel. Alléluia. Semblable à Jésus dans l'utilisation de notre vie, mais aussi semblable à Jésus dans la capacité pour le service, pour accomplir les œuvres que le Seigneur nous appelle à vivre. Alors, bien sûr, les choses sont différentes par rapport aux uns et aux autres. Nous sommes tous appelés parce que nous sommes différents et parce que nous avons reçu différemment, parce que nous n'avons pas tous les mêmes possibilités. Alors, nous ne sommes pas tous appelés à faire les mêmes choses. Mais nous sommes appelés à accomplir les œuvres, comme je disais tout à l'heure, que le Seigneur a préparées d'avance pour nous. Et en ceci, donc, nous sommes tous engagés dans le même chemin pour être semblables à Jésus qui, lui, était ici-bas pour accomplir la volonté du Père. Et il a accompli la volonté du Père de quelle manière? Quand est-ce qu'il a commencé à servir son Père, accomplir la volonté du Père? À quel moment? Quand il était bébé, il était parfait, il était bien, il ne fait rien de mal. À quel âge? À 10 ans? À 30 ans. Jusqu'à 30 ans, il n'a rien fait, du moins la Bible ne dit rien concernant Jésus jusqu'à 30 ans. Mais à 30 ans, il est venu vers Jean-Baptiste, environ 30 ans. Jean-Baptiste, il s'est engagé par le baptême. Et en sortant de l'eau, il s'est passé quelque chose d'important, de précieux. Vous vous souvenez? Le ciel s'est ouvert. L'Esprit de Dieu est descendu sur lui. Et la voix de Dieu s'est fait entendre. Celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. Il a été rempli du Saint-Esprit. Et à partir de là, il a commencé à accomplir dans le ministère pour lequel Dieu l'avait envoyé, rempli du Saint-Esprit. Pourtant, il était fils de Dieu, il était parfait, il n'y avait aucun mal, aucun péché en lui. Et tout d'un coup, là, l'Esprit de Dieu le remplit et il commence à servir Dieu. Cela signifie que ce que Jésus a fait, il l'a fait avec la puissance du Saint-Esprit qui le remplissait et qui l'amenait à accomplir tout ce qu'il a réalisé et dont nous parle l'Évangile. Et je voudrais lire avec vous ce texte que vous connaissez certainement et qui nous concerne tous et toutes, cette parole de Jésus dans l'Évangile de Jean au chapitre 14 et au verset 12. Jean 14, verset 12. En vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que je fais, et il en fera de plus grandes, parce que je m'en vais au Père, et tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai, afin que le Père soit glorifié dans le Fils. Si vous demandez quelque chose en mon nom, je le ferai. Il est très fort ce verset 12 que nous avons lu. Je vous le dis, celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que je fais, et il en fera de plus grandes, parce que je m'en vais au Père. Il s'en va au Père, et pourquoi s'en va-t-il au Père? Pour recevoir le Saint-Esprit et le répandre sur les croyants, sur ceux qui allaient croire en lui et s'engager avec lui. Jésus a commencé son ministère en étant rempli du Saint-Esprit. Et Jésus dit à ses disciples, je vais vous envoyer le Saint-Esprit et vous allez faire les œuvres que j'ai faites et vous en ferez même de plus grandes. Alors, pour être semblable à Jésus et lui ressembler, il nous faut être rempli du Saint-Esprit. Alors, c'est sûr qu'on peut faire certaines choses avec notre bonne volonté, avec notre amour pour Dieu, avec tout ce qu'il y ait dans notre cœur afin d'honorer le Seigneur. Mais, comme nous le lisons dans Actes au chapitre 1er au verset 8, Jésus a dit à ses disciples, « Vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans la Judée, dans la Samarie, et jusqu'aux extrémités de la terre. Vous recevrez une puissance, celle du Saint-Esprit, et vous serez mes témoins. » Et nous avons besoin de cela. Et dès l'instant où l'Esprit de Dieu nous saisit et nous remplit, alors il y a en nous une capacité qui dépasse nos capacités normales, qui va bien plus loin que ce que nous pouvons faire humainement. Une capacité qui vient de Dieu et qui nous rend capables de faire ce que Jésus a fait et, si besoin, de faire plus que ce qu'il a fait. Le livre des Actes nous parle du début de l'Église primitive, après que Jésus soit monté au ciel, l'Esprit de Dieu est venu, le jour de la Pentecôte, et il a rempli tous ceux et celles qui étaient là, dans la chambre haute, les 120 qui étaient là, et là a commencé quelque chose de grand et de merveilleux, et l'apôtre Pierre a prêché ce jour-là, et 3000 personnes sont converties, vous rendez compte? Quand Jésus parlait, les cœurs étaient touchés, bouleversés. Pierre a parlé et 3000 se sont convertis. Magnifique. Est-ce que vous croyez que Pierre a fait autant que Jésus? Peut-être un peu plus, là, parce que dans l'Évangile, on ne voit pas qu'il y a 3000 personnes qui ont suivi Jésus là et qui sont converties. Il y avait des foules qui suivaient, mais quand les choses sont devenues un peu difficiles, tout le monde a abandonné Jésus et même plusieurs de ses disciples l'ont abandonné. Mais là, 3000 se sont convertis. Formidable. Puis après, nous trouvons au chapitre 3 ce qui se passe avec le boiteux qui était là à la porte du temple. Ce boiteux qui avait plus de 40 ans et qui n'avait jamais marché. On le portait chaque jour à la belle porte du temple. Et quand Pierre et Jean passent là devant lui, cet homme demande ce qu'il faisait auparavant, n'est-ce pas? Pierre dit, regarde-nous. Et cet homme s'attend à recevoir quelque chose. Alors Pierre déclare, je n'ai ni argent ni or, mais ce que j'ai, je te le donne. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, lève-toi et marche. Et tout d'un coup, cet homme est guéri, délivré. Il n'avait jamais marché, mais cet homme est libéré, comme Jésus aurait pu le faire. Alléluia. Et puis, il y a tant d'autres miracles. Et je trouve qu'il est intéressant et magnifique de lire le livre des Actes et de voir ce que ces hommes et ces femmes ont pu faire parce que l'Esprit de Dieu les remplissait, les animait. Et là, la puissance de Dieu les utilisait accomplissant les œuvres de Dieu comme Jésus aurait pu le faire. Mais quelqu'un va dire, oui, mais ça, c'était du passé, quoi. C'était autrefois, il y a 2000 ans. Aujourd'hui, en 2018, qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse? La même chose, amen, parce que c'est la même dispensation, parce que nous avons le même Seigneur qui nous donne le même Saint-Esprit et qui veut accomplir au travers de nous et par notre moyen les mêmes miracles, les mêmes prodiges. Gloire à Dieu, alléluia. Il nous faut tout simplement aspirer, il nous faut tout simplement le désirer, il nous faut tout simplement lui dire, Seigneur, tu m'as sauvé, non pas pour que ma vie se passe comme ça, banalement, tant bien que mal, mais pour que ma vie soit un instrument entre tes mains. Alors je veux être rempli du Saint-Esprit et je veux que tu puisses m'utiliser, te servir de moi et faire les œuvres de Dieu. Non pas ce que moi je vais imaginer parce qu'il va me sembler que ce serait bien qu'il se passe telle ou telle chose, mais ce que toi, Seigneur, toi, tu as prévu de faire au moment voulu. Alors ainsi Dieu va se servir de nous, du plus grand au plus petit, du plus jeune au plus âgé. Dieu va se servir de nous pour parler à quelqu'un, pour ordonner une délivrance, pour faire un miracle. Et pourquoi pas? Et pourquoi pas? Il suffit tout simplement de le désirer. Les dons spirituels sont pour qui? Pour les plus excellents dans l'Église? Pas du tout. C'est l'Esprit de Dieu qui se sert de nous comme lui, il le veut. Et il suffit que nous soyons avec un cœur aspirant à ce que Dieu nous utilise pour qu'à un moment donné, bien dire, ah bon, tu le veux, bah, eh bien, je vais te servir, je vais me servir de toi, et puis ça y est, il se sert de nous comme il le veut, lui. Alléluia. Alors imaginez un peu tout ce qui va se passer à Grouillet, avec toute l'équipe que vous êtes là. Mais ça va bouger. Et les gens vont dire, oula, il se passe quelque chose là-bas, il faut qu'on y aille. Et alors il va falloir agrandir le local. Est-ce qu'on rêve là? Mais c'est la réalité. Parce que Jésus a dit, je vous le dis en vérité, celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que je fais, et il en fera de plus grandes. Et Dieu, dans son amour infini, ne veut pas simplement que nous vivions comme ça, tant bien que mal, mais il veut nous utiliser parce que nous sommes la lumière du monde, parce que nous sommes semblables à Jésus, son Fils, parce qu'il y a tant d'hommes et de femmes qui sont dans la détresse et qui ne connaissent pas la vérité, qui se laissent séduire et entraîner dans la tromperie que le monde nous offre, n'est-ce pas? Il faut que la vérité éclate, il faut que la lumière brille, il faut que la puissance de Dieu se révèle. Alors, bien sûr qu'il faut des prédicateurs, gloire à Dieu pour tous ceux qui sont levés et qui annoncent l'Évangile, alléluia. Et il faut que la parole de Dieu soit annoncée avec force, avec puissance, alléluia. Mais il faut aussi qu'elle soit confirmée par des miracles, par des prodiges. Jésus a dit à ses disciples, dans Marc au chapitre 16, « Allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création ». Et il ajoute, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru en mon nom. Et il fait toute une liste de miracles. Et la suite nous dit que les croyants sont partis et ont prêché l'Évangile. Et il est ajouté, le Seigneur travaillait avec eux et confirmait la parole par les miracles qui l'accompagnaient. Ces hommes et ces femmes annonçaient l'Évangile, ils annonçaient le beau message. Et il n'était pas simplement là avec des paroles qui disaient certainement excellentes, magnifiques. Mais il y avait quelqu'un qui était avec eux, le Seigneur qui travaillait avec eux et qui confirmait la parole par les miracles. Alors c'était autrefois ça, quand les gens n'étaient pas trop enfoncés dans le mal. Parce que la vie était un peu plus correcte à ce temps-là que maintenant. Enfin, je ne sais pas trop. Mais aujourd'hui, alors qu'on patauge vraiment dans le noir, dans la détresse, et que les gens ne savent plus ce qui est bien ou mal. Où est la vérité? Où est la lumière? Alors il faut que la parole de Dieu soit annoncée avec force, mais il faut que Dieu confirme sa parole. Alors Seigneur, envoie ta puissance, révèle ta grandeur, sers-toi de nous, et qu'au travers de nos vies, la parole de Dieu se révèle comme étant la vérité, cette vérité qui éclaire, qui libère, qui sauve, qui sort de la détresse, les hommes et les femmes qui sont perdus dans leur misère. Faire ce que Jésus a fait. Voilà. La capacité ne vient pas de nous. Il faudrait que nous soyons des surhommes. Mais elle vient du Seigneur, du Saint-Esprit qui nous remplit et qui nous anime. Et c'est lui qui fait les œuvres au travers de notre vie. Amen. Tel il est, tel nous sommes aussi dans le monde. Cela est écrit dans la première épître de Jean au chapitre 4 et au verset 17. 1 Jean 4, verset 17. Tel il est, tel nous sommes. Tel il est, tel nous sommes. Alors peut-être quelqu'un dira, oui, mais vous savez, parfois on est dans la difficulté et puis c'est difficile, hein, n'est-ce pas? Comment réagir quand on est insulté, quand on est méprisé, quand on est ridiculisé là, qu'est-ce qu'il faut? Il faut se laisser faire? On tape sur le joue là, bam! Alors qu'est-ce qu'il faut faire? Tendre l'autre? Ouh, où on va là? Alors on trouve Jésus sur la croix. On l'insulte, on le méprise. Hé, tu as dit que tu étais le fils de Dieu, alors si tu es le fils de Dieu, descends de ta croix et alors nous croirons en toi. Et on l'insulte, on le méprise, on l'a craché de lui, on lui a donné des coups de poing. Hé, devine qui t'a frappé? On l'a insulté. Et là, sur la croix, eh bien, on est en train de le percer de partout et le sang coule. Et les chevreliers se moquent de lui. Et que va dire Jésus? Est-ce qu'il va se fâcher en disant, mais c'est pas possible, mais enfin! Non, il dit, Père, pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font. Alors on va le dire, oui, mais c'était lui, c'était le Seigneur. Seulement quelques pages plus loin, dans le livre des Actes, on trouve un homme qui s'appelle Étienne et qui est employé par le Seigneur pour faire des miracles, des prodiges. Ce qui met en difficulté les chefs religieux qui ne sont pas contents et qui veulent le faire taire. Alors on le traduit devant le Sanhédrin. Et Étienne va donc s'expliquer, va dire, voilà ce que Dieu a fait. Et puis aujourd'hui, vous êtes toujours les mêmes, vous opposez à l'œuvre de Dieu. Alors ils se mettent à vociférer, à dire, oh, il faut le faire taire celui-là. Alors on le traîne dehors pour le lapider. Et là, alors qu'il est en train de mourir sous les coups des pierres, Étienne dit, Seigneur, ne leur impute pas ce péché. Formidable, hein? comme Jésus, comme Jésus. Alors qu'il aurait le droit de dire, mais enfin, vous n'y comprenez rien, mais je suis innocent. Ne leur impute pas ce péché, comme son maître. Ah, je crois que pour faire cela, pour vivre cela, il nous faut plus que de la bonne volonté, il nous faut plus que avoir intégré une théorie là de contrôle de soi. Il nous faut l'amour de Dieu, il nous faut l'esprit de Dieu. Et alors là, c'est le plus haut qui est réagissant, c'est le Seigneur qui réagit et qui nous fait vivre comme lui. Il nous donne cette capacité d'être comme lui. Béni soit Dieu. Alors ça, c'est pour les plus excellents, n'est-ce pas? C'est pour tous. C'est pour vous, c'est pour moi. Et il nous appelle à vivre ainsi comme cela, semblable à lui, gloire à Dieu. La Bible dit que Jésus était allé de lieu en lieu, faisant du bien et bénissant tous ceux qui étaient sous l'empire du diable. Il annonçait ce beau message de l'Évangile, alléluia. Il y avait pour lui cet impératif, il fallait que l'Évangile soit annoncé, il fallait que la bonne nouvelle soit proclamée. Il y avait tellement de malheureux qui étaient loin de Dieu. Alors, il leur annonçait cette bonne parole et délivrait les malheureux. Aujourd'hui, vous connaissez quelques malheureux autour de vous? Des gens pour qui il n'y a plus d'espoir? Peut-être que... Il y a quelqu'un en ville qui tente de dire, mais qu'est-ce que je fais sur la terre? J'en peux plus, je vais mettre fin à mes jours. Regardez, j'ai tout perdu et je me détruis. Il y a le cancer qui m'emporte. Non, je ne peux plus supporter cela. Mais si peut-être tout à l'heure le Seigneur vous conduit pour aller frapper à sa porte et lui dire, je viens vous apporter une bonne nouvelle, Jésus vous aime et veut vous aider. Ah bon? Ah bon, ce Jésus, mais qui c'est? Et le cœur de cette personne va être prêt à écouter ce que vous allez dire. Alléluia. Jésus allait de lieu en lieu, annonçant la bonne nouvelle et guérissant. Et nous aussi, nous pouvons faire de la même manière, aller de lieu en lieu et employer notre temps, nos forces, nos moyens pour faire quelque chose de plus, afin que les malheureux qui sont autour de nous et qui sont sans espoir puissent savoir et découvrir que quelqu'un peut changer leur vie et leur donner le bonheur que nous avons nous-mêmes, afin d'avoir une espérance glorieuse, afin de vivre quelque chose de nouveau dans leur vie. Alléluia. Alors que Dieu nous bénisse, nous aide par la puissance du Saint-Esprit. Vivre comme Jésus, avec les capacités qui nous viennent du Seigneur, pour un jour, partir avec lui dans la gloire et être avec lui. Alors là, qu'est-ce que ce sera là-haut, pour être avec lui là-haut, dans le ciel? Est-ce que vous avez déjà imaginé ce que ça va être? C'est difficile, n'est-ce pas? Il faudrait être allé d'abord là-haut pour voir un peu ce qu'il y a et puis après ensuite pouvoir le décrire. Mais l'apôtre Paul a fait une petite visite là-haut et en revenant, eh bien, il ne savait pas quoi dire parce qu'il n'avait pas les mots pour le dire tellement c'était merveilleux et glorieux. Il a vu des choses tellement exceptionnelles, magnifiques, qu'il ne pouvait pas le traduire avec des mots. Oh, ça dépasse tellement tout ce que nous pouvons imaginer, tout ce que nous pouvons envisager. Gloire à Dieu. Alors la Bible nous dit quelques mots au sujet de ce que nous serons, ou du moins ce qui va nous arriver. La Bible nous dit que nous serons là où Jésus est, que nous allons nous asseoir avec lui sur son trône, non pas à quelques marches plus bas. Attendez, moi je suis le Seigneur et vous êtes... Non, à la même hauteur que lui, sur son trône, assis avec lui. Waouh, ça va être formidable, assis avec le Seigneur. Est-ce que vous êtes déjà assis près d'une personnalité? Peut-être monsieur le maire, ou peut-être monsieur le député, ou quelqu'un de grand dans le pays, assis à côté de lui, là, dans un grand repas. Oh là là, je l'ai vu, il était assis à côté. Nous serons assis à côté du Maître, du Seigneur des Seigneurs, du Roi des Rois, avec lui dans son ciel. La Bible nous dit que Jésus va juger le monde. C'est lui le grand juge. Mais elle dit de nous que nous allons juger les anges, que nous allons juger le monde. Vous savez où c'est écrit cela? C'est écrit dans 1 Corinthiens. C'est important. Et ainsi, ça nous situe par rapport à ce que nous serons dans la gloire du ciel avec le Seigneur. 1 Corinthiens au chapitre 6 et au verset 2. 1 Corinthiens 6, verset 2. « Ne savez-vous pas que les saints jugeront le monde? Et si c'est par vous que le monde est jugé, êtes-vous indigne de rendre les moindres jugements? Ne savez-vous pas que nous jugerons les anges et nous ne jugerions pas à plus forte raison les choses de cette vie? Nous allons juger le monde, nous allons juger les anges. » Ben, c'est pas rien ça, c'est important. Les anges sont bien plus élevés que nous, n'est-ce pas, dans la connaissance, dans le pouvoir, dans la sainteté. Et pourtant, nous allons juger les anges et le monde. Nous allons être associés au Seigneur pour le jugement. Nous allons aussi participer à la gloire de Jésus. Et en ceci, je voudrais préciser quelque chose que je n'avais pas toujours compris, mais que j'ai commencé à comprendre il n'y a pas très longtemps. Dans 2 Thessaloniciens, au chapitre 2, et au verset 13 et 14, je lis ce texte pour vous. 2 Thessaloniciens, chapitre 2, versets 13 et 14. Pour nous, frères bien-aimés du Seigneur, nous devons à votre sujet rendre continuellement grâce à Dieu, parce que Dieu vous a choisi dès le commencement pour le salut, par la sanctification de l'Esprit et par la foi en la vérité. C'est à quoi il vous a appelé par notre évangile pour que vous possédiez la gloire de notre Seigneur Jésus-Christ, pour que vous possédiez la gloire. non pas être dans un environnement de gloire seulement, non pas être dans un lieu où tout est beau, mais pour posséder la gloire de Jésus, c'est-à-dire être investi de la même gloire. Alors, qu'est-ce que c'est qui fait la gloire de quelqu'un? C'est parce que c'est son rang social? C'est ce qu'il est capable de faire, ce qu'il a accompli. On parle souvent de Gustave Eiffel. Vous savez qui est, c'est Gustave Eiffel, ce grand monsieur qui a construit la tour Eiffel à Paris et qui est le point d'attraction du monde entier, qui vient voir la tour Eiffel. Gustave Eiffel, oh Eiffel, ouais. Mais Jésus, lui, il a construit le monde entier. C'est lui le créateur. Tout a été fait par lui et pour lui. La Bible nous dit dans l'épître de Pierre que le monde d'aujourd'hui va être détruit, va être anéanti, va être désintégré et que de nouveaux cieux et une nouvelle terre seront créés. La gloire du Seigneur se révèle dans ce qu'il fait, dans ce qu'il accomplit, dans ce qu'il est. Nous serons semblables au Seigneur et nous allons partager ce qu'il fait et nous allons être actifs et participant à tout ce qu'il va faire pour la création de nouveaux cieux, nouvelle terre, où la justice habitera et règnera pour l'éternité. Il y a donc tout un univers de choses glorieuses, magnifiques, qui nous attendent et que nous ne pouvons pas préciser aujourd'hui parce que ça dépasse tout ce que nous pouvons imaginer, mais ce sera tellement grand et merveilleux. Alors en attendant ce jour où nous serons avec le Seigneur, et où nous le verrons tel qu'il est, en attendant d'être semblable à lui là-haut, comme il est dans le ciel, nous voulons être semblables à lui, ici-bas, comme il a été. Voilà, dans une vie pure, exempte de péché, parce que son sang nous purifie de tout péché, dans une vie qui le fait connaître, pour que ceux et celles qui nous entourent découvrent et sachent que Jésus les aime aussi et veut le sauver, dans une vie avec la capacité qui nous permet d'accomplir ce que lui-même a accompli, et cela pour lui rester fidèle jusqu'au bout, et alors, quand il viendra, et c'est bientôt, quand il viendra, il nous prendra avec lui, et ce sera magnifique, gloire à Dieu. C'est peut-être tout à l'heure, hein? Peut-être, qui sait. Mais que Dieu nous rende fidèles, nous aide à demeurer fermes et attachés à lui jusqu'au bout, et que notre vie lui soit utile pour sa gloire et pour le salut de beaucoup. Nous allons prier le Seigneur. Merveilleux Sauveur, nous sommes heureux d'être là devant toi ce matin. Nous te louons de tout notre cœur parce que ton amour nous a arrachés à la mort, a fait de nous des hommes, des femmes nouveaux. Oui, tu as changé nos vies, tu nous as libérés de ce qui nous rendait esclaves. Et maintenant, nous sommes heureux de t'appartenir. Seigneur, tu es grand et merveilleux. Tu es digne que nous te fassions confiance. Et nous voulons que tu remplisses notre vie de ton esprit, de ta vie. Nous voulons que tu prennes toute la place. Je te prie de bénir mes frères et mes sœurs ici dans cette église. Et fais de chacun de nous, Seigneur, ces témoins que tu pour que le monde qui périt sache que tu es le sauveur, le libérateur, celui qui donne la vie. Seigneur, nous t'en prions, nous voulons vraiment te servir, t'honorer, être semblable à toi jusqu'au moment où tu nous prendras avec toi. Et alors, quel bonheur d'être avec toi pour toujours et d'être semblable à toi. Seigneur, merci au nom de Jésus. Amen. Amen.